Bonjour et bienvenue sur le podcast Diversité et Inclusion en Entreprise. Je suis Adrien Figula-Letor, cofondateur d'AFL Diversity et du Grand Prix Diversité et Inclusion. Dans cette troisième saison du podcast, je vous propose de partir à la découverte de personnalités qui œuvrent pour la diversité et l'inclusion dans les organisations. Ce podcast est fait pour vous donner des idées, vous donner envie d'agir et faire avancer vos organisations sur ces enjeux. Bonne écoute! Je suis ravi de recevoir dans cet épisode non pas une mais deux personnes. Steve Flanet, bonjour.
Bonjour Adrien.
Alors Steve, tu es directeur général de BVA People Consulting. On va en parler dans un instant. J'ai aussi à mes côtés Fabien Figula-Letor. Bonjour.
Bonjour Adrien, bonjour Steve.
Alors c'est drôle, on porte le même nom de famille. Bon, c'est pas un hasard, hein. On est mariés, on est aussi associés. On se quitte donc jamais, même sur ce podcast. Alors, je vous ai conviés tous les deux sur cet épisode pour que vous nous présentiez les principaux enseignements de l'enquête BVA People Consulting AFL Diversity que nous avons dévoilé à l'UNESCO mardi 9 mai dernier. Que nous puissions échanger sur ces résultats, les analyser autant que faire se peut. Donc, merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté d'y participer. Fabien, je te laisse te présenter pour commencer.
Alors, je suis donc l'associé d'Adrien. Nous avons créé ensemble AFL Diversity il y a à peu près 2 ans et demi. On a aujourd'hui une trentaine de clients, plutôt dans les grosses entreprises. Par contre, on couvre beaucoup de différents secteurs d'activité. On accompagne ces entreprises sur leurs enjeux diversité et inclusion à travers du conseil, l'organisation de workshops avec les salariés, des interviews de collaborateurs, de dirigeants. On crée également des formations sur mesure, on fait intervenir des personnalités inspirantes dans les entreprises, on organise des tables rondes, des conférences, bref, on apporte à nos clients des solutions pour les aider à être plus inclusifs. Alors, je vais tenter d'apporter dans cet échange des retours d'expérience de ce qu'on peut observer en entreprise pour les rendre un peu proches de la réalité.
Merci Fabien. Alors justement, avant d'entrer dans ces chiffres, Steve, est-ce que tu peux à ton tour te présenter et nous présenter BVA People Consulting, s'il te plaît ?
Oui, bien sûr. Donc, je suis Steve Flanet, directeur général de BVA People Consulting. BVA People Consulting, c'est la filiale du groupe BVA qui est dédiée aux problématiques autour du travail, de l'emploi et de la formation. On s'est donné une mission principale au travers de cette nouvelle entité, puisqu'on est nouvellement créé, on a vu le jour en toute fin d'année dernière, c'est d'accompagner les dirigeants d'entreprise et plus généralement les acteurs de l'emploi et de la formation pour leur donner la capacité de comprendre, de décider et d'agir face aux challenges qui sont relatifs au monde du travail.
Merci Steve. Je te propose qu'on rentre dans le premier enseignement de cette étude. Alors juste avant ça, nous redire le cadre de l'enquête, combien de salariés, quand a eu lieu le terrain.
Alors c'est vrai que c'est un peu le passage obligé dans notre profession, quelques rappels méthodologiques. Donc c'est une enquête qui a été réalisée en ligne au cours du mois d'avril dernier auprès d'un échantillon représentatif de 1068 salariés. La représentativité de l'échantillon a été assurée par une méthode assez classique qu'on appelle la méthode des quotas sur les variables de genre, d'âge et de catégories socio-professionnelles notamment. Alors qu'est-ce que ça nous dit ce type de méthodologie d'enquête ? Bah, tout simplement que indépendamment de la question des diversités, notre enquête est la représentation de la perception de l'ensemble des salariés en France et deux, que vu la taille de l'échantillon et la représentativité de cet échantillon, on peut extrapoler les résultats à l'ensemble de la population.
Très clair, merci beaucoup Steve. Alors, quel est le premier enseignement de cette enquête ?
Le premier enseignement nous livre une approche qui est assez novatrice dans la mesure de l'ampleur de la question des diversités en entreprise, puisque c'est vrai que quand on parle de diversité, on l'aborde très souvent sous l'angle des minorités, ce qui a tendance un petit peu à minimiser la portée du sujet. Donc on a cherché au travers de cette enquête à non pas avoir une mesure, puisque en France, vous le savez, c'est des sujets qui ne sont pas mesurables, mais en tout cas avoir une mise en valeur de l'importance de ce sujet et de cette problématique des diversités en entreprise au travers du sentiment d'appartenance des salariés à chacune de ces diversités. Et là, le résultat est assez marquant, puisqu'on observe qu'on a une majorité de salariés, 58%, qui a le sentiment d'appartenir à au moins une des diversités que nous avons listées. Dans le détail, on a un peu plus du quart des salariés qui nous disent appartenir à une diversité liée à l'apparence physique, 20% sont les seniors, 19% une diversité issue de la diversité sociale, 15% des personnes en situation de handicap, 12% des personnes qui sont issues de la diversité culturelle, et enfin 11% de personnes qui ont le sentiment d'appartenir à une diversité LGBT+.
11% des salariés se sentent appartenir à la diversité LGBT+. Ça aussi, c'est un nouveau chiffre. On se disait souvent entre 8 et 10%. Donc là, on a 11% des salariés qui se définissent comme LGBT.
C'est vrai que tu disais, Steve, c'est une donnée qui est très intéressante parce qu'on a peu de données chiffrées sur ces sujets, du nombre de personnes qui sont ou du moins qui se sentent appartenir à une diversité. Moi, ce que je retiens aussi, c'est que ça veut dire pour les entreprises que s'attacher à améliorer l'inclusion en leur sein, au sein de leur organisation, c'est un réel enjeu parce que ça concerne quasiment 60% de leurs collaborateurs.
Alors, Steve, quel est le second enseignement de cette enquête ?
Le second enseignement de l'enquête, c'est un peu l'ambivalence qu'il peut y avoir entre la perception qu'ont les salariés dans l'engagement de leur entreprise en matière de diversité et d'inclusion et la réalité des faits, ou du moins le jugement qu'ils ont de cet engagement. Alors, ambivalence parce que si une majorité de salariés, 60%, a le sentiment que son entreprise s'engage sur les enjeux de diversité et d'inclusion, on s'aperçoit que ce constat, il est plus nuancé auprès des salariés des TPE et PME qui sont très partagés, puisqu'ils ne sont que 53%, donc une courte majorité, à être de cette opinion, c'est-à-dire à nous dire qu'ils ont le sentiment que leur entreprise s'engage sur les enjeux de diversité et d'inclusion. Ambivalence aussi, parce que toute catégorie de salariés confondus, cet engagement est avant tout perçu comme un axe de communication pour l'entreprise. Près des deux tiers des salariés qui nous disent que cette entreprise s'engage sur ces sujets pensent que c'est avant tout un axe de communication. Et enfin, ambivalence parce que on s'aperçoit qu'il peine à convaincre, l'engagement peine à convaincre, plus que 47% des salariés sont de cette opinion au travers de cette enquête. On s'aperçoit donc qu'il y a un vrai travail de conviction à faire de la part de nos entreprises sur l'authenticité et la sincérité de leur démarche.
Deux tiers des salariés qui trouvent que c'est juste de la com, ça fait quand même très très mal. Fabien, ce chiffre t'étonne ?
Alors pas vraiment, on retrouve vraiment cette tendance quand on discute avec les collaborateurs. Au départ, quand on reste en surface, ils ont tendance à dire qu'il y a des choses de fait, qu'il se passe des choses dans leur entreprise. Mais en fait, dès qu'on creuse un peu sur les actions, sur les différentes thématiques, que ce soit la mixité, le handicap, les LGBT ou autres, on se rend compte qu'il y a vraiment des écarts entre la perception de ce qui est fait et les réelles actions au quotidien.
Alors, on rappelle évidemment qu'on est sur un échantillon représentatif des salariés français. Donc, évidemment, on parle avec beaucoup d'entreprises qui sont très engagées sur ces sujets et chez qui c'est réellement pris en main, dans lesquelles il y a vraiment des actions. Et je pense, si on interroge les salariés de ces entreprises très engagées, qu'on peut dire rôle modèle sur ces sujets, j'imagine que le chiffre n'est pas le même, mais là, on est bien sur un échantillon représentatif des salariés en France. Steve, parle-nous maintenant justement de la perception de ces salariés en France. Quelles sont les actions qui sont perçues comme importantes ?
Effectivement, on a interrogé les salariés sur les actions qui jugeaient comme les plus importantes ou tout du moins les plus efficaces pour favoriser la diversité et l'inclusion en entreprise. On s'aperçoit que c'est réellement l'accompagnement des salariés qui est, de leur point de vue, l'action qui est perçue comme la plus efficace pour favoriser la diversité et l'inclusion en entreprise, puisqu'on a 37% des salariés qui sont de cette opinion. Ça arrive notamment devant des actions du type le recrutement de collaborateurs issus de la diversité ou encore la mise en place d'une ligne d'alerte ou d'une procédure en cas de harcèlement ou de discrimination avérée. Donc on s'aperçoit que devant même des actions qui sont considérées dans l'esprit de tous comme des actions phares en matière de diversité et d'inclusion, ça passe quand même au second plan par rapport à l'accompagnement des salariés sur ces sujets. Donc il y a un réel besoin, l'expression d'un réel besoin, tout du moins de la part des salariés, en matière de sensibilisation et de formation sur des sujets liés à la diversité et l'inclusion en entreprise.
C'est clairement ce qu'on observe chez les clients, en tout cas qu'on accompagne. C'est cette première étape qui est juste d'en parler, de sensibiliser, et puis bien sûr de former. Fabien, qu'est-ce que ton avis là-dessus ?
En fait, souvent, les entreprises, quand elles cherchent à améliorer leur diversité, elles vont mettre en place des actions ou des processus de recrutement inclusif. Ça va les aider à recruter plus de femmes, plus de personnes en situation de handicap ou issues des quartiers prioritaires de la ville, par exemple. Mais on remarque qu'une fois que ces nouveaux profils intègrent l'entreprise, il n'y a que peu, voire pas d'accompagnement spécifique. Et c'est ce que nous disent du coup cette étude. Or, c'est essentiel. En fait, ces profils singuliers peuvent avoir besoin d'accompagnement spécifique pour comprendre l'entreprise qu'ils rejoignent, pour compenser un handicap, des études qu'ils n'ont pas faites ou des codes qu'ils n'ont pas. Et il en va de même pour les managers de ces nouveaux collaborateurs. En effet, il faut leur donner les codes du management qu'on appelle inclusif. C'est ce qui va vraiment permettre à l'entreprise d'être plus inclusif, et c'est ce qu'on retrouve dans le chiffre que Steve vient de mentionner. L'action jugée la plus efficace par les collaborateurs pour améliorer la diversité et l'inclusion, c'est l'accompagnement de ces collaborateurs.
Merci Fabien. Malheureusement, je crois que dans les faits, ce n'est pas vraiment une réalité, n'est-ce pas Steve ?
Bon, malheureusement, tu as raison, parce que si on s'aperçoit que l'accompagnement des salariés apparaît comme au premier rang des actions jugées comme les plus efficaces, dans le même temps, près des trois quarts d'entre eux nous disent ne pas avoir été sensibilisés ou formés aux questions de diversité, d'inclusion, même plus généralement de non-discrimination dans le cadre de leur travail.
Alors, ce qui est intéressant aussi, Steve, c'est qu'on remarque que les personnes qui se sentent appartenir à au moins une diversité disent avoir été plus sensibilisés que les autres. Ça peut paraître étonnant. En fait, quand on discute avec les entreprises, on se rend compte que dans la plupart d'entre elles, ces formations ne sont pas obligatoires. Et donc, ce sont sans doute les personnes déjà un peu sensibles au sujet qui vont faire l'effort de faire les formations. On le voit vraiment lorsqu'on organise des ateliers chez nos clients. L'appel à candidature est souvent volontaire et ce sont majoritairement les salariés dits concernés qui intègrent ces groupes de travail.
Alors qu'évidemment, ces sujets concernent tous les salariés et il ne faut pas juste avoir un enfant en situation de handicap ou une fille lesbienne pour se sentir concerné par la diversité. C'est là le rôle des alliés qui est évidemment essentiel. Alors, on le savait déjà, hein, la discrimination est loin d'avoir disparu en entreprise, tout comme dans la société malheureusement. Cette enquête, elle nous donne un éclairage particulier sur le sujet au niveau des rejets et des renoncements. Est-ce que tu peux nous en parler, Steve ?
Oui, effectivement, on a été creuser cette question des refus et des renoncements auprès des salariés. Et on s'aperçoit que ces situations de discrimination dites ressenties hein, dans le cadre de cette enquête sont encore très importantes, puisqu'on a d'un côté un salarié sur cinq qui a le sentiment de s'être déjà vu refuser une augmentation, une promotion ou la participation à un projet sur des critères avérés de discrimination, 14% une augmentation, 14% également une promotion professionnelle, et un salarié sur 10 la participation à un projet, et un peu plus d'un salarié sur 4, 27%, nous dit de son côté avoir déjà dû renoncer à remonter une information, solliciter une évolution professionnelle, demander une augmentation ou encore se lancer dans un nouveau projet, mais également rejoindre une nouvelle équipe du fait de leurs différences. Donc les refus à hauteur de 20% des salariés et les renoncements, on a un phénomène encore un peu plus marqué à hauteur de 27%. Alors sans surprise, on s'aperçoit que ce sont les personnes qui ont le sentiment d'appartenir à une ou plusieurs diversités qui se démarquent tout particulièrement avec des taux plus élevés que ce soit sur les refus ou sur les renoncements.
Pour rebondir sur ces chiffres avec ce qu'on observe en entreprise qui peuvent expliquer aussi un peu ces chiffres. On se rend compte qu'un des enjeux majeurs de l'inclusion en entreprise, c'est de créer un sentiment, un cadre de sécurité pour que les personnes qui se sentent appartenir à au moins une diversité se sentent protégées, rassurées et qu'elles puissent être 100% elles-mêmes. Un cadre sécurisé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire par exemple qu'une collaboratrice lesbienne sache que si elle souhaite faire son coming out, cela ne nuira ni à sa carrière, ni à son évolution, ni à son augmentation. Mais ça veut aussi dire qu'elle ne subira pas non plus des blagues douteuses, des remarques ou des insultes au quotidien de la part de ses collègues ou de son manager. C'est sans doute ça qui peut expliquer, en tout cas en partie, ces renoncements, un cadre pas suffisamment sécurisé pour se lancer. Et la seconde raison qu'on observe aussi en entreprise, c'est sans doute aussi le manque de rôle modèle. Le rôle modèle, c'est des exemples de personnes, par exemple en situation de handicap, qui sont haut placés dans la hiérarchie ou encore des personnes qui ont un patronyme maghrébin, en charge de dossiers stratégiques, etc. En fait, ça semble inaccessible pour les personnes issues de cette diversité, le fait de ne pas avoir de modèle de personnes qui ont fait ces étapes d'évolution ou de projets stratégiques ou de changer d'équipe qui soient issues des diversités. Alors, je vous laisse imaginer la perte de talent et le gâchis de talent qu'on a ici quand on a autant de personnes qui renoncent, eu égard juste à qui elles sont et pas à leurs compétences.
Merci Fabien. Cette enquête, elle nous fait aussi toucher du doigt le sujet et surtout l'impact de l'intersectionnalité, donc le fait de se sentir appartenir à plusieurs diversités. Steve, est-ce que tu peux nous en parler ?
Alors c'est vrai que c'est un phénomène qui a été beaucoup étudié outre-Atlantique et qui trouve ici dans notre enquête, hein, BVA People Consulting AFL Diversity, une des premières manifestations. Alors sur la question des perceptions, certes, mais une des premières manifestations dans notre pays. Alors on s'est livré à un exercice tout simple. En fait, on a été regarder ces chiffres des refus et des renoncements auprès des personnes qui ont le sentiment d'appartenir à une seule diversité et auprès des personnes qui ont le sentiment d'appartenir à plusieurs diversités. Et là, le constat est sans appel, puisque sur la question des refus, on s'aperçoit que l'impact du fait d'appartenir à une ou plusieurs diversités est de l'ordre de 16 points. 19% des salariés qui se sentent appartenir à une diversité nous disent avoir déjà vécu au moins un refus sur des critères avérés de discrimination, contre 35% pour les personnes qui se sentent appartenir à plusieurs diversités, donc plus 16 points. Et sur la question des renoncements, c'est encore plus important, puisqu'on passe quasiment du simple au double. On est à 24% de salariés qui nous disent avoir déjà renoncé en raison de leurs différences à, je vous le rappelle, une augmentation, une évolution professionnelle, la participation à un nouveau projet ou le fait de rejoindre une équipe en raison de leurs différences, contre 47% pour les personnes qui ont le sentiment d'appartenir à plusieurs diversités.
Alors c'est vrai qu'en entreprise, pour démarrer les actions sur la diversité et l'inclusion, on a souvent tendance à commencer par travailler par thématique. Alors il me semble que c'est plutôt efficace pour lancer les actions, les changements, former les collaborateurs. Mais finalement, assez vite, on remarque qu'il faut enchaîner sur des actions et des initiatives plutôt transverses. D'abord parce que les mécanismes à l'œuvre dans les différentes discriminations sont assez similaires, mais également parce que les solutions sont souvent communes. Je trouve personnellement que le fait de savoir qu'un salarié sur quatre se sent appartenir à plusieurs diversités, cela renforce vraiment l'urgence pour les entreprises de se saisir de cet enjeu. L'inclusion en entreprise, ça permet aux personnes d'être elles-mêmes, de ne pas passer de temps à cacher un handicap ou une orientation sexuelle, non hétérosexuelle par exemple, et d'être donc concentrées à 100% sur leur travail. Ça permet aussi à l'entreprise de pouvoir compter sur tous ses talents, et pas seulement ceux qui ne renoncent pas. Il s'agit donc, je pense, de bien-être des collaborateurs au service de la performance et de la mission de l'entreprise.
Merci Fabien. Juste pour terminer, Steve, un dernier mot sur l'engagement des jeunes. On voit en fait que si l'entreprise n'est pas alignée avec leurs valeurs, eh bien, ils démissionneront. Est-ce que cette enquête aussi nous fait toucher ce chiffre assez incroyable, alors, de tous les salariés, mais en particulier sur les plus jeunes?
Alors effectivement, c'est vrai que c'est un phénomène qui touche l'ensemble des salariés, mais au sein desquels les plus jeunes semblent les plus sensibles. On s'aperçoit que on a de manière générale 42% des salariés qui nous disent qu'en cas de désaccord avec les valeurs portées ou incarnées par leur entreprise, ils seraient prêts à démissionner de leur organisation. C'est 54% pour les jeunes de moins de 35 ans. Donc une majorité d'entre eux qui, dans l'expression tout du moins, nous disent que, en cas de désaccord avec les valeurs portées ou incarnées par l'entreprise, ils seraient prêts à quitter cette entreprise ou cette organisation. Et on s'aperçoit d'ailleurs que sur cette population des plus jeunes, on a une sensibilité qui est au moins aussi importante, voire plus importante, sur ces questions de non-discrimination de manière générale, par rapport à la question notamment des pratiques environnementales de leur entreprise. Puisque ce sont près d'un jeune sur deux qui nous disent que s'ils constataient que leur entreprise traitait différemment ou discriminait un ou une salariée en raison de ces différences, ils seraient prêts à démissionner, contre 40% en cas de désaccord avec les pratiques environnementales de leur entreprise. Donc là, l'idée n'est pas tellement d'opposer, hein, les deux problématiques qui sont importantes pour nos entreprises, mais plutôt de mettre en évidence l'importance de ces sujets de diversité, d'inclusion et même plus largement de non-discrimination pour les jeunes dans leur entreprise.
Je pense que ça résonne aussi beaucoup avec tous ces articles qu'on voit sur le quiet quitting, la démission silencieuse, où les collaborateurs, quand ils perdent l'engagement et le sens, du coup, font le minimum et sont moins engagés. On lit souvent des articles aussi sur les jeunes et cette démission silencieuse. Chez AFL Diversity, c'est souvent une des raisons pour laquelle les entreprises s'engagent. C'est comment est-ce que j'arrive à recruter des plus jeunes, les jeunes générations qui finalement vont challenger en entretien de recrutement les pratiques et les plans d'action diversité, inclusion et environnement. Mais diversité, inclusion est en train, en effet, de monter et c'est ce que montrent les chiffres. Donc, travailler sur ces sujets de diversité et inclusion, c'est un enjeu important pour pouvoir recruter et garder surtout les plus jeunes générations.
Eh bien, merci à tous les deux. On va terminer là-dessus et je pense que c'est déjà une bonne raison de travailler sur ces sujets. Si c'est pouvoir bien recruter, mieux recruter et conserver les talents dans l'entreprise. Merci beaucoup, Steve.
Merci, Adrien.
Merci beaucoup, Fabien, d'avoir apporté ton éclairage.
Merci, Adrien.
Et à très bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Retrouvez tous les autres sur notre site www.afldiversity.com et n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. N'oubliez pas, la différence est une force.